Un mot, une expression, une intonation, le grain de la peau, une odeur de crème, un parfum, une recette, le goût d'une madeleine, une image, une seule parfois contient tout un souvenir.
Pascal Paradou.
Pour raviver le souvenir de sa grand-mère, Mintra Nui lui consacre un livre, tout un livre, à elle seule. Karba était la personne la plus importante au monde, écrit-elle, une présence, un pilier, la gardienne de l'histoire familiale. Bonjour Mintra Nui.
Bonjour.
Vous l'appelez Ba, vous l'appeliez Ba.
Oui, c'est en fait le mot en vietnamien pour dire grand-mère. Et donc, je pense que tous les petits-enfants vietnamiens du monde ont une Ba et ils l'appelaient comme moi. Je n'ai jamais su son prénom, en fait, ou symboliquement, chaque fois qu'on me le donnait, je l'oubliais aussitôt. Pour moi, elle sera toujours Ba, ma grand-mère.
Elle était Ba et vous étiez ?
Alors, j'étais Korn. Korn qui veut dire normalement l'enfant. Donc, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin. En fait, quand normalement, j'aurais dû utiliser ce pronom qui signifie « je » pour mes parents, donc pour ma mère ou pour mon père. Et on ne me l'a pas dit. Moi, j'ai toujours utilisé « quand » vis-à-vis de ma grand-mère. Et un jour, je lui ai exposé cette étrangeté, à savoir que j'avais remarqué que d'autres petits-enfants appelaient leur grand-mère, enfin, se positionnaient par rapport à leur grand-mère en disant pour dire « je », non pas « Korn », mais ciao. Et c'était pour moi un mystère. Et ensuite, elle m'a dit non, mais comme tu es l'enfant de mon enfant, c'est un peu comme si tu étais mon enfant. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux m'appeler Ba et je peux t'appeler Korn.
Nommer, c'est essentiel dans la culture vietnamienne.
En tout cas, il existe dans la culture vietnamienne, et pas que dans la culture vietnamienne, je pense d'ailleurs, une façon de déterminer les positions de chacun à travers la langue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu de tu, de il. Il y a je suis ton amante, je suis ta petite sœur, je suis ta grande sœur, je suis ta mère, ou je suis une étrangère, ou je suis quelqu'un de proche. Et ça, ça se reflétera dans l'utilisation que je vais faire du mot qui désignera le je. Et réciproquement, le tu ou le il n'existe pas non plus. Donc, on se situe par rapport à la personne, avec des complications, à savoir que même si ma cousine est plus jeune et que donc je devrais m'appeler Thi, grande sœur, elle, Erm, petite sœur, si elle est la fille du cousin de mon père qui, lui, est plus âgé que mon père, elle devient Thi, et c'est moi qui suis Erm.
Alors, déjà que les histoires de famille sont compliquées, mais alors là, j'imagine la complexité pour dire le lien, en fait, entre toutes ces personnes.
Oui, le lien, la situation, la position, aussi bien sociale qu'affective, parce que vous pouvez aussi rajeunir quelqu'un ou le vieillir. En le vieillissant, c'est un signe de respect. En le rajeunissant, c'est pas vraiment un signe d'irrespect, c'est un signe aussi de proximité ou de familiarité, voire d'affection.
Il y a donc ce mot « ba » qui résume votre enfance, dites-vous, et que vous racontez d'entrée de jeu dans ce roman « Ma grand-mère et le pays de la poésie ». Et il y a aussi, pourquoi cela m'a touché, je ne sais pas vraiment, ou je sais, mais je ne le dirai pas, une odeur de crème.
Oui, le parfum, en fait, le parfum de ma grand-mère, c'est pour moi, c'est ma madeleine, hein, tout simplement. Ma grand-mère mettait, comme Marilyn Monroe, des gouttes de Chanel numéro 5 derrière les oreilles. Et sinon, elle se passait sur le visage un lait à la menthe douce et elle sentait ce lait par définition. Donc, très longtemps, la nuit, je me suis levée pour aller dormir dans le lit de ma grand-mère. Et donc, le parfum de ma grand-mère, que je n'ai jamais vraiment retrouvé, parce qu'évidemment, il faudrait sa peau en plus de ce lait et de Chanel numéro 5, c'est pour moi l'enfance résumée, incarnée, déployée. Et voilà, je le recherche un peu tout le temps.
Il y a aussi les œufs brouillés à la vietnamienne.
C'est ça.
Hein, si on veut compléter le tableau.
C'est ça. Qui ont d'ailleurs une odeur très très forte aussi, moins délicate et subtile que le Chanel numéro 5. Parce qu'évidemment, on y rajoute la sauce de Nguyen, la sauce pure. Donc vous sentez le poisson à peu près 300 km.
Est-ce que c'est un livre de souvenirs, Mintra Nui, ou c'est un livre de présence? Parce que l'essentiel du roman est une adresse. Vous lui parlez.
Oui, en fait, il y a eu une première version de ce livre où je racontais à la troisième personne l'histoire de ma grand-mère, qui en soi était romanesque, elle a tout connu, la guerre, les deuils, elle a survécu, elle a sauvé, elle a pris soin des autres, et elle s'est tue, ce qui est évidemment le début de tous les romans, c'est les histoires terribles, douloureuses, mais comptées. Donc il y a eu une première version où elle était un personnage à la troisième personne, mais elle était vivante à cette époque-là. Et là, ma grand-mère n'est plus de ce monde. Et donc, ce texte qui restait longtemps dans mon ordinateur initialement, il a changé de forme, il a muté. Je lui ai rajouté des contes vietnamiens. Je l'ai prolongé parce qu'il s'arrêtait à la naissance, enfin, avant la naissance de mon fils aîné. Alors que là, ça va jusqu'à aujourd'hui. Et c'est devenu une adresse parce que ma grand-mère et moi, nous avions cessé de parler la même langue. Nous avions cessé de parler l'intimité de l'enfance, et nous avions cessé de parler cette langue commune qui était le vietnamien. Parce que moi, en grandissant, j'ai appris le français a arasé le vietnamien, et donc écrire à ma grand-mère autant que sur ma grand-mère, c'est à la fois convoquer son souvenir et aussi m'adresser à quelqu'un à qui je ne peux plus m'adresser. Et c'est bien pour ça que j'utilise le livre pour le faire, de la même façon que j'avais écrit un livre, Un enfant sans histoire, qui s'adresse d'une certaine façon à mon petit garçon, mon fils aîné, que j'évoquais, qui est autiste, qui ne parle pas, qui n'a pas les mots. Et quelque part, avec ma grand-mère, j'avais pas les mots non plus. J'avais plus les mots, j'ai perdu les mots, tandis que j'aurais jamais les mots pour parler à mon fils aîné. Et le livre fait la jonction. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, tiens, je vais prendre une adresse qui redouble pour moi ce geste. Vous savez, vous saluez les gens. Est-ce que quand vous saluez quelqu'un, ça sert à quelque chose? Moi, je pense que c'est inutile sans être vain. Et je pense que les livres, c'est ça aussi. Donc, c'est une adresse à quelqu'un qui n'est plus là. C'est inutile, mais j'espère que c'est pas vain.
Alors, vous allez nous raconter, Minh Tran Nguy, l'histoire de Ba, arrivée en France en 1976, un peu avant votre naissance, et donc l'histoire de votre famille, qui est aussi celle de l'immigration vietnamienne en France. Mais auparavant, dans De Vive Voix, Marion Rampal, chanteuse et compositrice, qui invite sur son nouveau titre Cantilène, la flûtiste Naysam Jalal.
Dans la nuit d'orage où dorment les enfants, la Louise veille en nos jardins. Qu'on rêve cerise ou bien goutte de sang, tout est à venir dans le vieux temps. Savent-ils autour qu'on espère? C'est le cœur en fait qu'on attend. Oh, 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 oh. Traverser l'obscur jusqu'aux mers le moqueur, vers ailleurs s'en aller promener. C'est le cœur en fait qu'on attend. C'est le cœur en fait qu'on a. Thank you.
Marion Rampal sur RFI, accompagnée de la flûtiste Naïssam Jalal. Et vous me disiez, Mitra Nuit, écoutez beaucoup de musique quand vous écrivez, et notamment de la chanson.
Oui, alors de préférence d'ailleurs de la chanson dont je ne comprends pas trop les paroles, donc soit en anglais, soit disons Juliette Armanet, qui a cette immense vertu en plus d'être une grande musicienne, de ne pas trop articuler. Sinon, je me mets à écouter le sens et évidemment, je ne peux plus me concentrer sur mes propres propos.
Vous êtes invité pour ce livre, Ma grand-mère et le pays de la poésie, un livre au présent pour comprendre quand même le passé, son passé à votre grand-mère, à Ba, même si elle vous en a très peu parlé.
Oui, en fait, le livre, je pense, il présente deux points de vue en parallèle, qui sont celui de moi enfant et moi adulte. Et c'est aussi un désir de, je pense, restituer l'enfance et de restituer ce moment où vous pensez, évidemment, le monde est organisé autour de vous quand vous êtes petit. Vous n'imaginez pas que les adultes ont eu une vie avant vous. Et vous imaginez aussi qu'ils ont choisi leur destin, qu'ils ont choisi d'exister de cette façon-là, qu'ils ont tout choisi. Or, bien sûr, rien n'est plus faux. Et dans le cas de ma grand-mère, c'était encore plus fort, puisque son existence a été ballottée par la grande histoire. Et je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Je voulais à la fois tout d'un coup me remémorer à partir des quelques bribes que ma grand-mère avait laissées échapper et que j'ai complétées par des bribes que mon père a laissées échapper. Puis plus tard, en allant au Vietnam, par des bribes que d'autres personnes de la famille ont laissées échapper, je me suis dit, est-ce qu'à partir de tous ces fragments, je peux recomposer quelque chose qui ait l'air d'un objet cohérent ? Donc déjà, il y a cette histoire-là, c'est une histoire où...
Une histoire tragique, parce que quand
une
même...
Une histoire marquée par beaucoup de tragédies.
Elle perd son père et son mari qui sont exécutés par les communistes. Elle va être accueillie par son frère, juge, qui lui-même va périr dans les camps, parce que considéré comme traître, puisque travaillant pour les autorités françaises. Peu d'hommes, peu de femmes vivent une telle tragédie. Et je ne parle même pas de la mort de sa petite fille, sa première fille.
Oui, mon éditrice me faisait remarquer, donc comme quoi il faut vraiment un regard extérieur pour se comprendre soi-même et comprendre ce qu'on a vécu. Elle me disait, mais donc elle a perdu sa petite fille lorsqu'elle avait 2 ans, la petite. Et ensuite, on t'a remise à elle alors que voilà, t'étais bébé. Donc c'est comme si elle avait une deuxième petite fille, une deuxième chance. Et c'est vrai que ma grand-mère, que je n'ai jamais vue pleurer, mon père m'a dit, elle a pleuré, mamie, quand elle a perdu. Donc, cette petite fille qui était la petite sœur de mon père. Et ce qui, pour moi, est assez inouï, c'est qu'elle ait vécu, disons, des événements qui auraient dû la briser 100 fois, que non seulement elle les a gardés, elle a posé un couvercle dessus et elle n'en a rien dit, mais elle a continué à avoir la force de prendre soin des autres, de prendre soin de moi, de m'aimer, de m'élever, de se dévouer.
Mais Mitra Nuit, aujourd'hui adulte, dit « J'ai été pétrie de vos non-dits ». C'est-à-dire que ce silence sur le passé, alors est-ce que c'était une volonté d'oublier, est-ce que c'était une façon d'être, a été très marquant.
Bon, je pense que c'est la raison pour laquelle j'écris. C'est-à-dire que je pense que si tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été transmis, tout ce qui a été caché, dissimulé, tout ce pour qu'on n'a pas eu les mots, soit qu'on ait choisi de ne pas avoir les mots, soit qu'on ne l'ait pas choisi, mais qu'effectivement, ça soit une raison pour des raisons de survie psychologique, des raisons de survie même politique, puisque parler, par exemple, de l'assassinat de mon grand-père, mon arrière-grand-père, il valait mieux pas en parler dans le Vietnam communiste. Il pouvait avoir une paire d'oreilles mal intentionnées qui allait vous dénoncer, et vous vous retrouviez dans un camp en moins de 2. Tout ça fait, je pense, que quand l'histoire n'a pas été transmise, quand la transmission d'héritage a été interrompue pour une raison ou une autre, parfois il se trouve dans la génération suivante ou la génération encore suivante, quelqu'un pour tenter de poser des mots dessus de façon à restituer l'histoire de la lignée. Ça ne veut pas dire qu'on réussit, ça ne veut pas dire que d'ailleurs on ne se trompe pas. J'imagine comment elle a rencontré mon grand-père, je sais que c'est faux. C'est une scène romanesque, donc j'ai projeté ça, j'ai gardé ça, alors que je sais qu'évidemment c'était un mariage où les deux familles se sont arrangées, se sont parlées avant. Bon là j'imagine une scène de coup de foudre au marché, mais je pense que voilà, la mémoire c'est aussi une forme d'imagination. Et dans l'imagination, il y a de la fiction, mais il y a aussi une forme de vérité, même si, évidemment, ils ne se sont pas rencontrés comme ça. En revanche, je sais qu'ils se sont aimés et que c'est un amour légendaire au sein de ma famille.
Minh Tran Nui, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre. C'est le temps de la lecture. Votre grand-mère vous lit des histoires.
Si tu ne t'exprimais jamais en français, tu étais pourtant amené à le lire régulièrement, à voix haute. Tous les soirs à la même heure, je tirais la manche de ton gilet pour te demander d'ouvrir un des albums posés au pied du lit, le déplier au-dessus de nous comme un toit de carton, un plafond fabuleux, où se trouvaient projetées les aventures de Blanche-Neige, du Petit Chaperon Rouge, de la Belle et la Bête, du Vilain Petit Canard. Je ne concevais pas de me coucher sans le cérémonial d'une histoire, me fut-elle contée à l'identique, pour la 10e ou la 100e fois. Tu as avancé lentement, prudemment, en détachant chaque syllabe. Tu usais d'un ton mécanique et appliqué, déserté par l'émotion. La magie n'en agissait pas moins. Les bêtes douées de parole, les fées, les génies, les princes charmants et les princesses en détresse étaient devenus des compagnons pas moins réels à mes yeux que mes camarades de classe. Je suivais leurs équipées avec une joie que la répétition ne faisait qu'amplifier. C'était bon de savoir qu'il y avait des choses sur lesquelles on était sûr de pouvoir compter. Quoi qu'il arrivât, Podane s'enfuirait avec ses robes couleur du temps, de la lune et du soleil. Cendrillon perdrait et retrouverait sa pantoufle de verre. Le prince charmant réveillerait la belle au bois dormant d'un baiser. Tu m'aimerais, veillerais sur moi jusqu'à la fin des temps.
La grand-mère, votre grand-mère, Minh Tran Nui, vous lit Podane ou Cendrillon, mais pas les contes vietnamiens. Pourtant, dans votre histoire, il semble, et dans le livre, vous le dites, il semble avoir beaucoup compté.
Oui, en fait, comme souvent, lorsque on n'a pas accès à la réalité immédiate d'un pays, en l'occurrence, le Vietnam, on essaye de convoquer tout ce qui peut y avoir rapport de façon plus ou moins lointaine, à savoir la nourriture, la langue, certains usages, certaines traditions, et notamment les contes. En plus, les contes vietnamiens ont cette très bonne idée de raconter pourquoi est-ce qu'on mange tel gâteau au Nouvel An ? Pourquoi est-ce qu'il y a une montagne à cet endroit-là ? Pourquoi est-ce que ce lac s'appelle le lac de l'épée restituée ? En fait, ils disent l'histoire du Vietnam, ils disent même via, par exemple, la réincarnation qui est mise en scène dans plusieurs contes, la façon de penser des Vietnamiens. Et donc, pour moi, les contes, c'était ma première appréhension de ce pays qui était à la fois le mien, puisque j'ai les yeux bridés, je suis jaune, et je parlais d'ailleurs vietnamien d'abord avant de parler français, et en même temps tragique et lointain, puisque donc c'est le pays où j'ai jamais mis les pieds, même si j'en suis originaire, c'est le pays de mes parents, c'est le pays de ma grand-mère, c'est leur pays à eux, plus que, que mon pays. Et donc les contes ont été une façon d'appréhender à la fois la beauté, la poésie et le fantasme, en fait, la légende littéralement, qui naît autour de ce pays d'origine, et en même temps tout de suite la tragédie, parce que la plupart des contes vietnamiens, ils finissent mal.
Oui, vous dites qu'ils sont mélancoliques, car le bonheur n'est jamais un terme, mais un moment passager.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui m'a nourrie très tôt, et que j'ai été très frappée par la différence entre les contes français, si je puis dire, ou en tout cas les contes occidentaux, et les contes vietnamiens. Puisque c'était quand même bien pratique dans les contes à la Cendrillon ou la Belle au bois dormant. Une fois qu'on a trouvé son prince, la vie s'est réglée. Voilà.
On se marie, on a des enfants, le bonheur bourgeois.
Voilà. Et puis, on vit 100 ans. Donc, c'est ce que je me souviens dans Podane. Je dis, c'est pratique quand même, ça va bien. Mais alors que dans les contes vietnamiens, il y a beaucoup de contes qui sont sur la perte du bonheur. Et finalement, c'est quelque chose qui m'est beaucoup plus familier et qui d'ailleurs est beaucoup plus proche de ce qu'a vécu ma grand-mère en réalité. Donc, c'est quelque part, ils m'ont préparée à découvrir l'histoire familiale, à savoir que dans ma lignée maternelle comme dans la lignée paternelle, il y a eu des bonheurs, mais ils ont été suivis de pertes terribles, de ruines totales.
Alors, vous embrassez la mythologie, les contes de votre pays, mais pas la langue. J'aimerais qu'on en parle parce que ça semble difficile d'apprendre le vietnamien quand on est dans la deuxième ou troisième génération. Et récemment, j'ai rencontré à ce micro la comédienne Océane Mozas, qui a un parcours similaire au vôtre, qui a coécrit avec Marine Bachelot Nguyen un spectacle intitulé « Deux sœurs ». Et elle nous a raconté ce qu'il en était pour elle.
Depuis un an, donc c'est quand même très récent et très frais. Vais-je continuer ? Je le souhaite, j'espère avoir toujours les forces pour le faire. Je me suis inscrite et je prends des cours de vietnamien. Le vietnamien ne m'a pas été transmis par mon père, qui par souci d'intégration, lui est né là-bas, mon père, mais est arrivé en France très jeune et a oublié le vietnamien. Et c'est le cas de beaucoup de vietnamiens descendants. Elle est comme la langue des oiseaux. Quand on va au Vietnam, beaucoup de gens chantent dans la rue, dans les bars. Et c'est une langue extrêmement musicale qui monte très haut, qui va très bas, ou même qui traduit pas forcément ce qui est dit, ou qui est presque très dramatique dans les sons. C'est celle qui a le plus de tonalité. Et c'est pour ça que se faire comprendre et la comprendre est très difficile.
Minh Tran Nguy, pourquoi vous n'avez pas voulu, pu apprendre le vietnamien ?
Alors déjà, je
dirais. C'est si difficile.
Alors déjà, en fait, j'ai parlé vietnamien. Mais je suis une petite fille en vietnamien. J'ai 6 ans en vietnamien. J'ai pas de vocabulaire pour parler de littérature, de philosophie ou de politique. Je peux dire j'ai faim, prends-moi dans tes bras, ou mamie, je t'aime.
Aujourd'hui encore.
Ça, je peux le dire encore. Je peux demander où sont les toilettes, je peux demander l'addition, voilà. Mais c'est vraiment un vocabulaire limité. Et d'ailleurs, quand je le parle, j'ai l'impression de redevenir une enfant. Et j'ai l'impression que ça me ramène quelque part à cette époque où ma grand-mère était encore vivante, et où je parlais avec elle, parce que c'était avec elle que je parlais vietnamien. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, la hiérarchie qu'il y a dans la langue vietnamienne fait que ça me rendait totalement muette quand j'allais au Vietnam, parce que je me disais que j'allais commettre un impair, que j'allais être impoli sans le vouloir, en n'utilisant pas le bon « je », le bon « tu », le bon « il ». Mes parents ont tenté de m'inscrire à quelques cours, j'ai assisté à quelques cours, j'étais trop jeune, je pense, pour comprendre ce que je perdais. Ensuite, alors jamais trop tard, j'ai des amis d'origine vietnamienne, comme par exemple Duan Bui, qui écrit aussi sur ce thème, elle prend des cours. Elle a beaucoup de courage. Moi, j'avoue que ce qui est difficile dans le vietnamien, c'est pas la grammaire, parce que vous n'avez pas de temps, c'est bien pratique. Il n'y a pas d'imparfait du subjonctif qu'il faut comprendre ou récupérer ou se dire tiens. Et la vraie difficulté, c'est plutôt le jeu des pronoms et la prononciation. Et c'est vrai qu'on perd des phonèmes très vite en grandissant, et que le vietnamien, ce qui est dur, c'est quand vous n'avez jamais eu de contact avec et vous devez apprendre à le parler, à l'articuler.
Donc ça, c'est propre aux deuxième ou troisième générations de vietnamiens, ou vous pensez que c'est assez général, finalement, dans toutes les générations d'exilés ?
La difficulté à apprendre cette langue ? La langue d'origine ?
La langue d'origine, quelle qu'elle soit ?
Je ne sais pas, pour le coup. J'ai l'impression que si jamais je ne dis pas que je ne me remettrai jamais à apprendre le vietnamien, mais je pense que, c'est curieux d'ailleurs, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place lorsque j'essaie d'apprendre le vietnamien, que j'essaie d'être dans la posture de quelqu'un que je ne peux pas être. Et c'est ce que je ressens beaucoup quand je suis au Vietnam, c'est ce qu'on appelle une Viet Kieu. Donc je suis une vietnamienne de la diaspora.
Et vous dites que vous êtes française par la langue. Parce que la langue, pas simplement parce que née en France, mais parce que vous parlez française, la langue a fait de moi une française, dites-vous.
Oui, je pense qu'on est constitué par la langue. Son identité, notre identité, elle tient à la façon dont on va s'exprimer et on va poser des mots sur les choses. Ma grand-mère était entièrement et absolument et totalement et de façon très très compacte vietnamienne. Moi, je suis française aussi parce que je dirais que ma patrie, ma place, ma maison, c'est le français. Sinon, je suis une étrangère sur beaucoup de plans. J'ai l'air d'une étrangère, j'ai des origines étrangères. Et en plus, je suis passée d'une certaine façon d'une classe sociale à une autre au sein de la famille, ce qui accentue encore cette impression d'étrangeté. J'ai des repères qui ne sont pas ceux, généralement, de mes amis ou des gens qui sont autour de moi ou de mon mari, enfin de mon ex-mari. Et le seul endroit où j'ai trouvé parfois ma place, c'est dans les livres et c'est en lisant des histoires écrites en français.
Une écrivaine que j'aime beaucoup, Hélène Cixous, dit « Ma langue, c'est la littérature ». Hélène Cixous, c'est une des écrivaines françaises les plus connues et étudiées dans le monde, qui souvent parle de ses origines, de son départ d'Algérie dans les années 50 et de son sentiment d'appartenance. Dans l'émission de Yasmine Chouaki, elle parle à sa petite fille, Encore une histoire de transmission, là aussi. Petite fille d'origine indienne adoptée par sa propre fille.
D'Algérie, je suis partie. Mais parfois, je me dis aussi, tu sais, si on joue avec l'idiome français, je suis d'Algérie, je suis partie. Je suis une partie d'Algérie. Une petite partie. Et puis l'arrivée, alors par contre, je me suis toujours dit que j'arrivais pas. Tu vois, mon arrivée en France, c'est une sorte de pièce de théâtre, moi je dirais une tragicomédie, tu sais, j'arrivais pas à arriver. Alors là, vraiment, ça m'a pris un temps. Et un sentiment d'arrivée, j'en ai très très rarement. J'en ai avec les, très physiquement avec, et spirituellement avec des êtres. Par exemple, avec toi.
Dans Hélène, pour moi, tu viens de... Je sais, mais pour moi, tu viens de la lune.
Ah, tu m'as jamais
femme
dit
lune.
Ça.
Tu es une femme très lune. Moi, j'adore la lune.
Ah.
Alors, et pour moi, tu es très lune. Tu n'es pas de cette terre.
Partir, arriver, mine tranuit, est-ce que les exils ne sont pas souvent des puissants moteurs pour la création?
Oui, je pense que c'est le sentiment d'être étranger. Et donc l'exil en est évidemment une parfaite incarnation. Et d'ailleurs, je pense que derrière le Vietnam, pour moi, c'était une façon de parler de tous les exils du monde. Et je dirais aussi que c'est aussi... L'exil, il peut être social. On parlait tout à l'heure, donc ma grand-mère, elle était vietnamienne, elle était aussi une paysanne. Elle est aussi d'un monde qui, pour moi, est totalement étranger. Je suis une citoyenne urbaine. Mon job, c'est d'écrire des livres ou bien d'écrire sur les livres des autres. Ma grand-mère a arrêté ses études en CM. Donc, il y a toutes sortes d'exils qui se superposent, je pense, toutes sortes de façons d'être étranger. Et c'est la raison pour laquelle on écrit, je pense, à savoir pour se réconcilier et retrouver un pont, des liens, une façon de tendre une main envers des territoires dont on pense qu'ils sont trop éloignés ou qu'on n'arrive plus vraiment à les appréhender. Et on écrit pour ça. J'essaie de faire en sorte que ces fragments se réunissent et constituent un tout.
J'écris pour elle. Votre grand-mère, dites-vous, Mintra Nui. Alors, il y avait beaucoup de grand-mères déjà dans vos précédents livres, mais cette fois, c'est elle le personnage principal. Vous lui deviez ça. C'était une façon de lui dire « je t'aime ».
Oui, je pense qu'on peut dire « je t'aime » à des gens qui ne sont plus là. Et que les livres, il y a aussi de cet ordre, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce livre-ci. Ma grand-mère, j'avais pas du tout conscience au moment où j'écris mon premier roman que je lui ferais une place. Et en fait, elle était là, tout de suite, d'emblée. Je pense qu'elle a été... parce que j'avais le sentiment d'être au milieu d'une sorte de tectonique des plaques où je ne savais pas très bien quel chemin prendre. Je me sentais très perdue. Le seul repère que j'ai vraiment eu, c'est l'amour de ma grand-mère. Et c'était un amour très sensoriel. Et c'était un amour très concret, très incarné. Et qui, dans le même temps, était donc très difficile à dire. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce désir. C'est est-ce qu'on peut dire ce qui ne peut pas se dire? Comment est-ce que vous voulez raconter le bonheur d'être dans les bras de quelqu'un que vous aimez? En fait, au-delà d'une phrase, c'est foutu, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a une sorte aussi de tentative de... Est-ce qu'on peut bâtir un livre sur ça? Sur ce geste-là, d'autant que la personne est morte, d'autant que vous ne parlez plus sa langue, d'autant que votre parcours et le sien, littéralement, n'ont plus rien à voir. Et le texte, donc on tisse, étymologiquement parlant, on tisse en fait des fils qui sont disjoints. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce livre, qui est une sorte d'aboutissement où apparemment ma grand-mère était un personnage de fiction qui venait, qui était soit une bonne fée, soit une aide, un adjuvant, diraient les techniciens de l'exégèse. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie qu'elle soit le personnage principal, sans doute parce qu'elle ne se serait jamais considérée comme un personnage principal. Elle n'aurait jamais eu l'idée de se raconter. Elle ne se jugeait pas intéressante, alors qu'elle est un personnage de roman.
Et écrire permet de garder trace, comme vous le dites. Merci beaucoup, Mintra Nui. Ma grand-mère et le pays de la poésie est édité chez Flammarion. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. À très vite.